Déjà, pour ouvrir la voie, il faut savoir que c'est un projet que j'ai commencé quand j'ai décidé de quitter la France. Et comme vous le savez ou vous ne le savez pas, mais il y a énormément de personnes noires qui quittent la France et puis depuis un moment, et en particulier dans les milieux artistiques, d'enseignement, etc., etc., puisque ces personnes-là n'arrivent pas à avoir, on va dire, des carrières qui seraient à la hauteur de leurs compétences. Et donc, ce qui s'est beaucoup passé, c'est qu'un certain nombre de personnes qui devraient être très connues en France et qui sont des grandes artistes, je pense par exemple à Maryse Condé, ben en fait, ont fait le gros de leur carrière aux États-Unis, ont même pu acquérir la légitimité en devenant prof aux États-Unis, c'est le cas par exemple d'Oglissant, etc., qui ont eu énormément de mal à se faire reconnaître en France alors qu'ils avaient déjà énormément publié. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour un certain nombre d'entre nous, y compris les afrodescendants, moi, par exemple, j'ai découvert Maryse Condé par le, on va dire, le truchement du monde anglo-saxon et de la, on va dire, de la militance et de l'intérêt pour le black feminism. Parce que moi, j'ai grandi dans une famille qui n'est pas forcément, on va dire, une famille d'intellectuels. Donc, du coup, moi, j'avais jamais entendu parler de Maryse Condé. À mon époque, elle n'était pas enseignée au collège-lycée. Il semblerait que ça ait changé maintenant et qu'elle soit au programme au lycée. Mais donc, du coup, bah, moi, je fais partie d'une génération qui n'était pas prête de tomber, on va dire, par hasard sur l'œuvre de Maryse Condé, par exemple. Et puis, pareil, pour un certain nombre de films, je pense par exemple à Rue Cazenègre, le film de Zane Palsy, qui a gagné le César du meilleur film en 88. C'est la première et la dernière femme noire en France qui a gagné un César pour un long métrage de fiction. Film que je n'ai bien entendu pas vu en salle et que j'ai aussi découvert assez tard dans ma vie, à la vingtaine, et quand je commençais à regarder les films de Spike Lee, etc. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu cette idée de pourquoi est-ce que notre histoire disparaît. Et c'est un questionnement qui me poursuit depuis un certain nombre d'années. Pourquoi est-ce que j'ai pas accès à ces productions culturelles? Pourquoi est-ce que j'apprends un certain nombre de choses uniquement parce que je parle anglais et que je me mets à lire certains auteurs et autrices qui font donc référence à des auteurs français que je ne connais pas? Qu'est-ce qui se passe dans ce processus-là? Tout ça peut venir. Par ailleurs, il se trouve, et donc là je vous fais un petit peu, moi j'appelle ça, c'est le point positionnalité, donc d'où je parle, qu'est-ce que je vous raconte et pourquoi ça va informer tout ce que je vous raconte après. Et un autre endroit d'où je parle, ben, c'est le fait que je suis née sous X. Donc née sous X hein, en France, c'est l'accouchement anonyme, donc ça veut dire que vous n'avez aucun antécédent familial, médicaux, donc qui est par exemple pour moi un sujet permanent de problème, parce que quand je vais chez les médecins et qu'on me demande quels sont mes antécédents et que j'ai un problème donné, bah on ne sait pas d'où ça vient et d'où ça peut venir puisque je n'ai pas d'antécédents médicaux, et puis d'avoir absolument aucune information sur l'endroit d'où on provient, en dehors de, dans mon cas, d'un marqueur qui fait que, en tout cas, j'ai une appartenance qui m'a été attribuée très tôt dans la vie, qui est que je suis une femme noire, mais parce que ça a un sens particulier en France, et bon, ça on y reviendra. Mais c'est une, on va dire, c'est une appartenance qui a un côté vide de sens. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme noire quand on grandit dans une famille blanche et où justement, bah, leur référence culturelle, c'est sûr que c'est ni Maryse Condé, ni, je sais pas moi, Myriam Makeba, mais ça va être Johnny Hallyday et puis des choses comme ça, puisque moi j'ai complètement grandi là-dedans. Donc cette question aussi, souvent, quand j'ai des personnes qui sont pas adoptées en face de moi, ce que j'essaie de donner comme exemple pour qu'on comprenne ce que ça veut dire de n'avoir aucun antécédent et aucune idée sur ses origines, bah, c'est l'image du texte à trous. Dans un texte à trous, vous avez une phrase qui fait presque du sens, il manque quelques mots, puis vous les rajoutez, la phrase elle fait du sens. Bah, pour une personne qui est née sous X, et les personnes qui ont été abandonnées et qui ne connaissent rien, bah, c'est l'inverse. Nous, on a quelques mots, des fois on n'a même pas de mots, et on doit créer une phrase. On doit se recréer de bout en bout toute une identité, et qui est faite des informations qu'on a ou qu'on n'a pas, qui est faite des assignations qu'on nous donne dans les sociétés dans lesquelles on a été adopté. Alors moi, je suis née en France, mais d'autres sont, par exemple, nés dans d'autres pays, puis ils arrivent, et donc ils deviennent, ou elles deviennent, on va dire, des petites chinoises. Il y avait la vague des fillettes chinoises en adoption. Ben, qu'est-ce que ça veut dire pour ces personnes-là? C'est quoi leur appartenance à la Chine, leur rapport à cette culture, à cette langue? Et je vous dis ça parce que je reviendrai sur la question de la langue un peu plus tard. Et donc, tout ceci pour vous dire que ce qui m'intéresse, c'est comment on se crée une identité? Comment est-ce qu'on garde des traces et comment on en laisse pour les suivants et les suivantes? Puisqu'à titre personnel, ça m'intéresse de laisser des archives, puisque moi je suis née en n'ayant rien, et je pars du principe que si j'ai des enfants, bah au moins j'aurais aurais laissé des choses qui dans mon cas seront des œuvres culturelles, puisqu'en fait j'ai pas des moyens de leur donner quelque information que ce soit sur leurs origines et sur l'endroit d'où ils viennent. Et donc, pour vous donner une petite idée de pourquoi c'est très important pour moi, c'est que le travail, on va dire, de documentation autour d'Ouvrir la Voie, pour moi, il commence à ce moment-là. C'est la soirée que j'avais organisée en février 2015 et qui s'appelait « La parole des femmes noires entre confiscation, réappropriation et paternalisme ». Et c'est une soirée que j'avais organisée parce que j'avais terminé le tournage du film. Et bon, déjà, je voulais en parler et puis je voulais faire en sorte de voir si on avait du public. Mais je voulais aussi commencer à documenter notre action, à montrer qu'on était là, à montrer qu'on pouvait tenir des panels, qu'on pouvait faire un panel avec que des femmes noires, dans lequel on allait aussi faire réémerger l'histoire des femmes noires, et que donc il y avait toute cette question aussi de s'inscrire dans un mouvement. C'est pour ça que je vous ai parlé de mon parcours personnel, parce que moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qu'on peut aller chercher chez nos anciens et nos anciennes, qu'elles soient là ou pas là. Alors dans mon cas, on va dire qu'ils soient pas là de façon familiale, mais par contre ils peuvent être là de façon théorique, politique, artistique, etc. Donc moi ça m'intéressait beaucoup, et donc ça c'est quelque chose autour, on va dire, de la documentation consciente et volontaire. Et ça pour moi ça vient après avoir fait certaines lectures que je vais vous expliquer après aussi, de pourquoi c'est très important de documenter le présent, de documenter son action, de laisser des traces, parce que justement les archives qui disparaissent les plus rapidement sont les archives des minoritaires, les archives des pauvres, les archives des femmes, etc., etc. Et donc c'est seulement, on va dire, dans une espèce de surproduction de contenu qu'on a une petite chance que d'ici 5, 10, 15, 20 ans, il reste quelque chose. Et donc on va tout de suite commencer avec un exemple. Donc la discussion, elle va suivre ce fil-là. D'abord, je vais vous parler de quelques exemples types d'effacement des femmes noires comme figure culturelle, historique en histoire de France. Ensuite, je vais vous parler de comment, voilà, moi, j'ai pu, grâce à l'Atlantique Noire, donc l'Atlantique Noire, hein, c'est un concept de Paul Gilroy, et c'est tout ce qui va être, on va dire, de l'ordre de la création après le drame. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on arrache des millions d'Africains pour les réduire en esclavage dans la Caraïbe et dans les Amériques? Qu'est-ce qui se passe quand, justement, encore une fois, on vous a tout enlevé? On vous a enlevé votre langue, votre religion, votre groupe ethnique, on vous déplace dans un espace. Et donc, ce qui se passe, par exemple, ça, c'est des choses qu'on peut retrouver chez Glissant, etc., c'est la créolisation, c'est l'invention de nouvelles langues, c'est l'invention de nouvelles musiques, c'est l'invention... Et donc, pour moi, par exemple, beaucoup de choses, j'ai pu les trouver dans l'Atlantique Noire, c'est-à-dire dans les cultures caribéennes, dans les cultures afro-américaines. Donc, comment ça m'a donné des idées, et cette histoire de la documentation, c'est une idée qui m'est venue d'un cas très particulier, qui est le cas d'Ida B. Wells, dont je vais vous parler après aussi. Ensuite, il y a la question de la création comme outil d'émancipation, et pour moi, l'émancipation, elle passe par le décentrement de la blanchité. Et donc ça, je vous expliquerai aussi d'où ça vient. Là, c'est plutôt la question de Dubois et de la double conscience. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un minoritaire et d'être censé constamment parler avec le groupe majoritaire? C'est-à-dire de devoir faire des choses pour ou contre, mais de jamais faire des choses pour soi, en soi. Pour moi, la décolonisation de l'imaginaire, ça veut dire que je n'ai pas toujours à parler avec les Blancs, ou aux Blancs, ou contre les Blancs, mais je peux faire, par exemple, un film pour la jeune fille noire que j'étais quand j'avais 15-16 ans. Et ça, ça change complètement l'adresse de votre travail. Ça, c'est mon point de vue sur la question, après on peut discuter. L'adresse de votre travail, c'est ce qui va aussi déterminer là où vous en êtes dans votre parcours. Et pour moi, c'est très différent. Je pense qu'Ouvrir la voie, je l'aurais fait à 18 ans, ça aurait été un film contre la France blanche. Ouvrir la voie, quand je le commence à 30 ans, c'est un film pour les jeunes filles noires. Et c'est très très différent. Et puis, la dernière thématique, qui est justement la question de se réapproprier la narration et de documenter le présent. Et puis je vous donnerai un autre exemple qui a été fait récemment en art contemporain, puis d'autres exemples aussi, pour vous montrer que c'est quelque chose qui se fait pas mal, et toujours dans l'Atlantique Noire, puisque l'exemple que je vous donnerai en art contemporain, c'est Camisa Makwata, qui est une artiste montréalaise, et dont j'aime beaucoup le travail. Donc on va commencer avec le premier exemple de femme noire un peu beaucoup effacé de l'histoire culturelle française, c'est Paulette Nardal. Donc Paulette Nardal, dont vous avez peut-être entendu parler maintenant, parce qu'on recommence un peu à en parler dans l'espace public, littéraire, etc. Mais Paulette Nardal a disparu de la narration sur la négritude pendant une bonne, on va dire, quarantaine d'années. Or, sans Paulette Nardal, il n'y aurait pas eu de négritude. Donc pour vous donner un petit aperçu de qui est cette femme complètement extraordinaire, donc en 1920, Paulette Nardal arrive à Paris et s'inscrit à la Sorbonne et en littérature anglaise. Et donc ça devient la première femme noire française à rentrer à la Sorbonne, mais pas la première femme noire, puisque la première femme noire c'est Anna Jay Cooper, une afro-américaine qui est venue faire une thèse d'histoire, qui a un parcours aussi complètement incroyable, mais c'est une autre histoire. Elle est donc caribéenne, martiniquaise, et quand elle est à la Sorbonne depuis quelques années, tous les étudiants africains, caribéens qui arrivent et qui s'inscrivent à la Sorbonne, elle les prend, on va dire, un peu sous son aile, elle leur montre le Paris noir. Puisqu'à l'époque, Paris est un lieu où se trouvent beaucoup d'intellectuels afro-américains exilés qui cherchent à échapper aux lois ségrégationnistes. Et donc, c'est une ville où il y a un gros foisonnement culturel, donc beaucoup d'afro-américains et puis aussi beaucoup d'artistes caribéens, etc., africains. Donc elle fait déjà ce travail de faire découvrir le Paris noir aux jeunes étudiants, mais surtout, avec ses sœurs à Clamart, dans leur appartement, elles montent un salon littéraire. Et dans ce salon littéraire vont se rencontrer Aimé Césaire, Léon Gontran-Lamas, Léopold Sédar Senghor, etc., etc. Et elle ne fait pas que tenir ce salon littéraire, on va dire, un petit peu comme une dame bourgeoise qui s'ennuie. Elle est vraiment quelqu'un qui est très organisé sur la question de l'émancipation des femmes et puis sur poser les prémices d'une nouvelle forme de création. Et justement, ça va se concrétiser autour de ce qui s'appelle la Revue Noire. Donc là, vous avez vu la Revue du Monde Noir. Et je vais vous écrire ce qu'elle disait en 1931, quand elle crée cette revue avec l'écrivain haïtien Léo Sajous, qui va vous donner aussi une bonne idée de comment est-ce qu'elle elle aussi déjà conçoit cette question de la création comme outil d'émancipation. Donc c'est une revue bilingue français-anglais, et elle ne paraîtra que pendant un an, mais voici ce qu'il disait. L'objectif est de créer entre les Noirs du monde entier, sans distinction de nationalité, un lien intellectuel et moral qui leur permette de se mieux connaître, de s'aimer fraternellement, de défendre plus efficacement leurs intérêts collectifs et d'illustrer leur race avec un grand R. Tel est le triple but que poursuivra la Revue du Monde Noir. Donc, tout ça pour vous dire que Paulette Nardal n'est pas seulement quelqu'un qui met les gens en relation, mais c'est aussi quelqu'un qui est vraiment féru de littérature, qui coordonne une revue, et qui donc permet au mouvement de la négritude, aux acteurs du mouvement de la négritude, de se rencontrer, et puis de lui donner ses assises politiques et littéraires. Ensuite, elle devient aussi quelqu'un de politique au sens propre, puisque en 1934, elle devient la secrétaire du parlementaire martiniquais Joseph Lagrosillière, puis elle devient la secrétaire de Galandou Diouf, qui est le député du Sénégal en 1934. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'ordonnance de 1944 donne le droit de vote aux femmes, et Paulette Nardal crée le Rassemblement féminin en 1945 en Martinique, puisqu'elle souhaite inciter les femmes martiniquaises à utiliser le droit de vote récemment acquis et à l'exercer. La chose que j'avais faite à la soirée de février 2015, ça avait été de commencer la conférence justement en parlant de Paulette Nardal et en faisant tout un aller-retour, on va dire, dans l'Atlantique Noir pour montrer comment aussi les Afro-Américains se sont nourris de ce qui se passait en France et à Paris dans les années 20-30 et en particulier de choses qui étaient déjà ramenées par des Caribéens et des Africains. Et ensuite, dans un autre mouvement, nous aussi beaucoup nourris de ce qui s'est passé au niveau des luttes pour les droits civiques aux États-Unis. Et donc c'était très important pour moi de redonner, ces lettres de noblesse à Paulette Nardal et puis de la remettre sur l'avant de la scène, parce que ce qui s'est passé aussi beaucoup quand les afroféministes, les femmes noires, sont revenues dans l'espace public en France, ça a été de dire « Oh, ce nouveau mouvement, c'est frais, c'est jeune, etc. » Et donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est très violent pour les générations avant nous. Nos aînés se sont battus, nos aînés ont créé, nos aînés ont fait énormément de choses, et c'est pas parce que ça n'a pas été retenu dans l'histoire qu'on doit nous-mêmes ensuite participer à effacer ce qu'elles ont fait. Alors, c'est compliqué, ça demande des recherches, c'est du temps, et moi c'est des choses sur lesquelles je suis tombée parce que je faisais les recherches préliminaires pour mon film, et que j'essayais de me documenter, donc encore une fois, c'est pas accessible forcément facilement, mais il y a un vrai travail à faire pour nos générations, et je dis nos générations parce que moi je m'intéresse aux communautés noires, mais je pense que ça marche pour plein d'autres communautés, d'aller voir ce qui s'est passé avant, d'aller s'inspirer aussi de leur lutte, etc., mais surtout de ne pas rajouter à la violence de celle qui s'exerce par les groupes majoritaires et qui ont du pouvoir, de silencer, on va dire, nos aînés, parce qu'en fait, il s'est passé des choses, et même si des fois, ces personnes-là ont du mal à nous transmettre leur histoire, c'est important d'arriver à le mettre en parallèle avec le fait que c'est plus dur de transmettre l'histoire des perdants aussi. Et c'est difficile, par exemple, pour des personnes qui faisaient partie des luttes pour l'indépendance en Guadeloupe, etc., de transmettre cette histoire à leurs enfants, quand en fait, l'indépendance n'est pas arrivée, quand ça n'a été que violence, perte de leurs amis, et finalement, en plus, devoir travailler pour l'oppresseur, en étant ensuite, par exemple, fonctionnaire. Donc voilà, ça c'est une petite note aussi sur pourquoi c'est important, parce que moi avant je me vexais beaucoup. Je disais pourquoi est-ce qu'ils nous disent rien aussi, pourquoi est-ce que nos aînés ils transmettent pas, qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui je serais plus nuancée sur la question et je dirais il faut comprendre aussi que quand les conditions matérielles sont pas réunies, matérielles, émotionnelles, etc., pour transmettre son histoire et l'histoire de ses luttes et surtout quand elles n'ont pas fonctionné, il y a une raison pour laquelle on ne nous les transmet pas et on doit aussi un peu creuser de notre côté. D'autres mouvements qui ont aussi disparu et pour lesquels, et d'ailleurs si vous passez à Paris, je le dis avant d'oublier, une autre façon de faire revivre l'histoire de Paulette Nardal, c'est de faire la visite guidée, le Paris Noir, qui est menée par Kelly Donna et qui a créé deux visites de Paris, rive gauche et rive droite, pour justement faire passer les visiteurs dans toute l'histoire noire de Paris et au niveau de la création culturelle, politique. Et donc lui, il vous parlera bien plus en détail de ces femmes noires à la Sorbonne, du congrès des écrivains noirs en 1936, etc., etc. et c'est très intéressant. Donc il y a tout un travail aussi qui commence à être fait, on va dire, par une plus jeune génération pour ramener notre histoire au devant de la scène. Un autre groupe qui a été complètement effacé et donc dont il était très important de parler, y compris à cette soirée février 2015, ben ce sont les afroféministes des années 70, puisque les féministes noires étaient là en France, hein, elles se battaient, elles étaient d'ailleurs pas les seules, il y avait la coordination des femmes noires, il y avait la coordination des femmes d'Amérique latine, il y avait la coordination des femmes d'Indochine, sauf que quand vous faites des recherches aussi sur les mouvements féministes noirs français des années 60-70, mais vous allez voir que c'est pas tout à fait simple de trouver des informations. Moi, j'avais trouvé des informations dans un mémoire sur ces féminismes racisés des années 60-70. C'est la seule référence que j'ai trouvée vraiment claire sur les féminismes non blancs dans les années 60-70 en France. Et après, ce qui s'est passé, c'est que grâce à un accident, alors là, on va dire heureux, puisqu'il y a des accidents, on va dire au sens machiavélien, des choses que vous maîtrisez pas mais qui se passent bien. Ben, j'ai fini par avoir accès à des informations, mais encore une fois, par le biais de la création. Pendant que je préparais Ouvrir la Voie, je faisais partie du laboratoire Scène francophone et écriture de l'altérité à la Sorbonne. C'est un laboratoire qui permet à des artistes, chercheurs et des auteurs, donc soit des artistes, on va dire, de spectacle vivant, et soit après des chercheurs et des auteurs, de se rencontrer dans ce laboratoire. Et voilà, c'est un laboratoire d'idées, on parle de nos créations en cours, on fait un peu de réseau, et les chercheurs peuvent venir nous présenter leurs recherches en cours. Par exemple, une fois, j'avais vu les dessins animés négrophobes pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Il y avait un mec, c'était son sujet de thèse, et donc il nous présentait ça, puis là on discute avec toutes les personnes présentes. Et donc je présente Ouvrir la Voie, en tout cas là j'étais dans la phase d'écriture, donc ça c'est 2013 à peu près, et puis là Marie-Julie, qui est finalement dans le film, qui est comédienne, Marie-Julie Chalut, me dit « Ah mais alors t'as dû discuter avec Gerty ?» Et là je lui dis « Bah non, pourquoi j'aurais discuté avec Gerty ?» À ce moment de ma vie, Gerty Danbury, moi je ne la connais que comme auteur et dramaturge. Et là elle me dit « Bah parce que Gerty, elle faisait partie de la coordination des femmes noires, si tu fais un truc sur les féministes noires, tu devrais parler avec Gerty. » Donc là, je vais quand même voir vite fait sur son Wikipédia, je vois rien qui mentionne la coordination des femmes noires, et donc je me rends compte encore une fois aussi comment notre histoire disparaît. Qu'est-ce qui va être publicisé? Qu'est-ce qui va rester? Et là, je me rends compte que ça fait quand même déjà un an ou deux que je connais Gerty, et que je n'étais pas au courant, en tant que féministe noire, que Gerty avait monté une des premières associations de féministes noires en France. Donc là, on se voit avec Gerty, je lui demande un peu de m'expliquer ce qui se passe, et puis aussi de m'expliquer pourquoi, selon elle, on n'arrive pas à se rencontrer. Pourquoi est-ce que moi, du coup, bah, quand j'ai voulu militer en tant que féministe, je me suis retrouvée à oser le féminisme. Bah, c'est pas inintéressant, j'ai appris plein de choses, mais c'était pas là où j'avais envie d'être, en fait. Et pourquoi aussi ces associations-là ont disparu? Qu'est-ce qui s'est passé entre la coordination des femmes noires des années 70 et puis Moissy, qui a été le premier groupe qui se revendique comme afroféministe, qui a vu le jour en 2014? Et en l'occurrence, surtout, qu'est-ce qui ne s'est pas passé en termes de transmission, encore une fois? Donc là, on discute avec Gerty, et elle m'explique, entre autres, que bah, dans les choses qui se sont peut-être pas passées, c'est des choses qui pourraient ressembler à son parcours. Gerty fait partie de ces femmes noires qui sont à Paris dans les années 70 pour faire leurs études. Donc ce sont soit des femmes de la Caraïbe, soit des femmes d'origine africaine. Et une fois qu'elles ont terminé leurs études, souvent elles retournent dans leur pays ou leurs espaces de départ. Et donc du coup, elles vont continuer leur lutte, mais elles vont continuer leur lutte dans la Caraïbe ou en Afrique. Et en France, le mouvement majoritaire féministe ne va pas entretenir leur mémoire. Il ne va pas entretenir leur mémoire jusqu'à un point tel, d'ailleurs, que Gerty manquera de peu de ne pas être invitée pour les 30 ans du MLF. Et il faudra qu'il y ait un très gros scandale qui soit fait par un certain nombre de militantes racisées pour qu'elle fasse finalement partie d'un panel sur l'histoire du fondement du féminisme français. Donc c'est ça qui se passe aussi, c'est qu'encore une fois, qu'est-ce qui nous reste de ces époques-là? Donc en grattant, j'ai réussi à obtenir de Gerty, il lui restait ce numéro de juillet de la coordination des femmes noires, parce qu'elles éditaient un bulletin. J'ai aussi réussi à gratter deux photos, voilà, elle avait deux photos de manif, quelque part, et puis ce qui reste aussi, c'est il y a un recueil de poèmes qui s'appelle La parole aux négresses d'Awatiam, qui est paru, je crois, en 73. Mais sinon, bah, des luttes de ces années-là, alors moi j'en profite aussi, surtout quand je suis à l'université, hein, ça veut dire, si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à faire de recherche, voilà, des luttes de ces années-là, bah, on a pas grand-chose, il nous reste vraiment pas grand-chose, et donc ce serait intéressant d'arriver à savoir ce qui se passait, voilà, au niveau des féminismes non-blancs, tout comme, là il y a un peu plus de recherche, mais par exemple, tout ce qui est les Gouines Rouges et tout, là il y a pas très longtemps, j'ai eu une conversation avec quelqu'un à propos de... ils font une expo de mémoire de mai 68, etc. Et du coup, je disais, mais vous avez accordé quelle place à toutes les luttes de mai 68 qui n'étaient pas nécessairement menées à Paris, ni par des personnes hétérosexuelles, ni par des personnes blanches. Et c'était pas tout à fait clair de là où ils en étaient au niveau de cette représentation pour leur exposition. Ben ça, pour moi, voilà, ça consiste aussi en ça, l'enjeu des archives, c'est que c'est un enjeu politique qui est sans cesse renouvelé. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on fait une commémoration de mai 68, qu'est-ce qu'on va commémorer ? Qui est-ce qu'on va commémorer ? Quels groupes vont être mis de l'avant ? Sachant qu'en fait, il se serait pas passé grand-chose sur un certain nombre de sujets, ben, si les lesbiennes n'avaient pas été là, si les noirs, les arabes, les asiatiques n'avaient pas été là, etc. Donc voilà, ça c'était un petit aparté, mais qui a son importance. Donc, ça faisait un moment que j'étais assez obsédée par la question des archives, de pourquoi on disparaît, comment on disparaît, etc. Mais j'avais pas vraiment, on va dire, même si j'avais commencé le film, c'était pas tout à fait concret dans ma tête ce que j'étais en train de faire. Et puis, je suis tombée dans un essai de Patricia L. Collins, je suis tombée sur une anecdote qui m'a vraiment permis de comprendre ce que j'étais en train de faire. Donc, ce que raconte Patricia L. Collins dans cette citation, c'est comment, en fait, une femme noire se rend compte, donc là, en l'occurrence, une militante des droits civiques afro-américains, donc une militante afro-américaine, c'est avec ça qu'on d'accord. Bon, voilà. Une militante des droits civiques aux États-Unis se rend compte qu'elle est en train de disparaître de l'histoire puisqu'elle n'est pas invitée aux commémorations pour la fondation du NAACP. Et que quand elle assiste à des événements publics, et ben en fait, des jeunes gens la reconnaissent éventuellement pour l'avoir vue sur des photos, mais ne savent pas ce qu'elle a fait. En termes de, encore une fois, c'est quelqu'un qui était vraiment sur l'activisme de terrain, et en particulier qui a mené énormément de travail sur le lynchage aux États-Unis et sur comment s'organiser contre les lynchages. Et en fait, quand j'ai lu cette citation, je me suis dit, c'est exactement de ça dont il s'agit. C'est vraiment cette question de, parce que voilà, j'avais déjà discuté avec Gerty, c'est cette question de qu'est-ce qui se passe. En fait, personne va écrire notre histoire à nous, c'est sûr, tout le monde s'en fout, et si on l'écrit pas nous-mêmes, elle va juste disparaître, parce qu'au bout d'un moment, par exemple, quelqu'un comme moi va partir. Et donc moi je m'en vais, si je fais pas ouvrir la voie, qu'est-ce qui reste de mon passage en France, qu'est-ce qui reste de mes luttes, qu'est-ce qui reste même des raisons pour lesquelles je suis partie. Et donc, après, c'est là que vient la question que vous aviez vue dans le descriptif, des moyens de production. Ouvrir la voie, comme je l'ai dit dans le descriptif, je le faisais pas en pellicule. C'est un film qui aurait coûté des dizaines, voire centaines de milliers d'euros en pellicule, juste déjà dizaines de milliers d'euros en pellicule. Là, avec le numérique, c'est un film qui, entre le matériel pour le faire et les frais de sortie en salle, ça a coûté 40 000 euros. C'est de l'argent, mais ces 40 000 euros répartis sur 4 ans, que j'ai pu sortir parce que je suis en couple, et c'est clair que je n'aurais jamais sorti toute seule parce que je ne sais pas. Mais donc du coup, il y a quand même cette question de, aujourd'hui, on est en mesure de faire des films en autonomie, ce qui n'était pas possible avant. Et au départ, quand j'ai commencé à ouvrir la voie, je pensais le mettre sur YouTube. Après, quand je me suis dit que c'était vraiment bien, au bout de une semaine de montage, je me suis dit que ce serait vraiment gâché. La question, ça a été comment est-ce qu'on chope de l'argent pour pouvoir faire la post-production. Il faut savoir que la post-production, pour un documentaire, un petit projet, c'est autour de 25 000 euros. Les 25 000 euros en fin de parcours, là, on était déjà à peu près à 25 000 euros sortis de notre poche pour faire le film. Il était hors de question de mettre 25 000 euros pour faire la post-production. C'est le mixage du son et c'est l'étalonnage de l'image pour que ça puisse être diffusable en salle de cinéma. Parce que quand vous faites un film, sa première version, c'est pas quelque chose qui peut être projeté dans une salle. Bon, en tout cas, ce sera dans une qualité qui lui rendra vraiment pas honneur. Donc la question, c'est qu'aujourd'hui, il y a un autre outil qu'il n'y avait pas il y a 30-40 ans, c'est les financements participatifs. Ouvrir la voie, il va pas en salle s'il n'y a pas de financement participatif. Nous, on a pris 17 414 euros. Ça nous a non seulement permis de faire la post-prod, parce qu'après, on s'est débrouillé pour avoir des trucs moins chers, etc. Ça nous a même permis de payer rétroactivement Coralie, qui est donc la caméra woman qui a tourné 6 des entretiens sur les 24. Et ça aussi a permis qu'on mette la mise de départ pour notre boîte de production, Bratfer Production et Distribution. Et donc, je dis « on » puisque je travaille avec mon conjoint. Tout ça, en fait, c'est pas possible de le faire il y a 40-50 ans. C'est pas possible parce qu'il n'y a pas le numérique, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas le financement participatif, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas les réseaux sociaux, et que moi j'ai rencontré une bonne partie des participantes au film grâce aux réseaux sociaux, que j'ai pu créer une base de gens qui ont suivi le projet. Pourquoi aussi j'avais fait cette soirée en février 2015? L'idée, c'est qu'il y a des gens qui suivent le projet d'Ouvrir la Voie depuis son tournage. Moi, dès que j'étais contente du nom, j'ai fait une page Facebook. Donc, quand on tournait, je mettais des photos du tournage en disant « Ah, aujourd'hui, on tourne, blablabla. » Quand on a fait la soirée, pareil pour le compte Twitter. Donc, il y a des personnes qui suivent Ouvrir la Voie depuis 2014 et qui étaient là, puis qui attendaient, qui voulaient voir comment ça allait se passer, etc., etc. Cette capacité aussi de créer une communauté on va dire, dématérialisé qui va suivre votre travail et qui vous permet après de dire, je vous dis que ce film a un public potentiel, on a, je sais pas, 3000 personnes qui nous suivent sur la page Facebook, etc. C'est des choses que moi j'ai pu dire quand on cherchait des producteurs, quand on cherchait des distributeurs. À la fin, on a finalement distribué le film tout seul, et ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, je pouvais avoir cet argumentaire-là. Donc, cette question de, en fait, pourquoi est-ce que je fais ça, ça m'est devenu clair en lisant cette histoire d'Ida B. Wells, donc c'est pour ça que je voulais la partager. Donc ensuite, quand on veut faire quelque chose, c'est bien d'avoir des exemples. Et alors là, des exemples de films afroféministes français, si quelqu'un en trouve, ben moi j'ai bien cherché, mais j'en ai pas trouvé quand je faisais des recherches pour mon film. Donc encore une fois, je me suis retournée du côté de l'Atlantique, et j'ai trouvé un film canadien qui m'a vraiment beaucoup aidé à me faire une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler, qui s'appelle Sisters in the Struggle, après un livre du même titre sur les luttes, encore une fois, des femmes afro-américaines pour le mouvement des droits civiques, et qui est un documentaire, là, alors qui est spécifiquement sur des militantes afro-féministes canadiennes. Et donc, du coup, c'est un peu différent puisque Ouvrir la voie, il est, on va dire, c'est un cadre afroféministe pour le questionnaire, mais les femmes qui sont interviewées le sont pas forcément, ou elles s'identifient pas comme ça, etc. Mais en tout cas, ce film m'a vraiment beaucoup aidé, et il m'a d'autant plus aidé que c'est aussi quelque chose qui a été écrit par Dionne Brand, qui est par ailleurs une poétesse, etc. Et donc, on retrouve aussi tous ces personnages ou ces profils de gens qui vont passer de l'activisme à la création, de la création à l'activisme, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment le choix, encore une fois, si on veut que nos luttes restent, en tout cas qu'il en reste des traces. Et vous pouvez voir ce film gratuitement sur le site de l'Office national du film du Québec, Canada. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir, c'est un documentaire qui est très intéressant. Nous allons donc maintenant passer à la question de la création comme émancipation et comme outil de décentrement de la blanchité. Je vous ai parlé un peu plus tôt, quand je me suis présentée, de la question de la langue. La question de la langue, c'est aussi un autre sujet d'obsession personnelle qui vient du fait, encore une fois, de qu'est-ce que ça veut dire d'être forcé de parler le langage du dominant, d'être forcé de parler un langage qui n'est pas forcément le mien. On ne sait pas d'où je viens, mais ça se trouve, le pays, il y a des grandes chances d'ailleurs que l'endroit d'où je suis originaire, ce ne soit pas des gens qui parlent français. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi de me retrouver dans ces nouvelles cultures? Et ça m'intéresse aussi parce que c'est un questionnement qui traverse les enjeux des coloniaux et qu'on retrouve chez plein d'auteurs, et c'est Kateb Yassine qui disait « J'écris en français pour dire aux français que je ne suis pas français », qui est quelque chose qui m'a toujours aussi beaucoup, voilà, c'est une citation que j'aime beaucoup, et cette idée d'avoir été privé de sa langue, voilà, c'est très fort chez les descendants de colonisés, et ça résonne d'autant plus chez les personnes adoptées. Et c'est une situation qui a été très bien résumée dans une autre phrase qui est assez connue, c'est la phrase de Derrida de « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne ». Donc tout ça pour vous dire que comment est-ce qu'on peut s'émanciper, de mon point de vue, c'est en créant un nouveau langage. Et la création artistique, c'est la création d'un nouveau langage, c'est le sien en fait. On raconte ce qu'on veut. Ouvrir la voie, c'est le film que j'aurais voulu voir quand j'étais adolescente. Quand je dis que c'est le film que j'ai fait pour des jeunes filles noires, c'est que j'aurais voulu le voir dans le sens où je pense pas qu'au moment où si je l'avais vu à 15-16 ans, le film m'aurait heurté. Mais c'est le film dont j'avais besoin à cet âge-là, on va dire. Plus exactement, c'est des choses dont j'aurais aimé être prévenue en amont, c'est des choses qui m'auraient permis ensuite de me sentir légitime dans un certain nombre de ressentis que j'ai eu au cours de ma vie, puis je n'étais pas capable de les expliquer, et je me disais, imagine la chance que vont avoir certaines jeunes filles noires qui vont voir ce film, on va dire, en début de parcours, juste avant d'entrer dans l'âge adulte, et l'avance qu'elles auront sur moi. Et quand je vous disais de laisser des traces aussi aux suivantes, la question c'est de ne pas avoir à chaque fois à repartir de zéro. Moi, je me disais, à chaque fois que je parlais avec Gerti ou avec d'autres gens, et je me disais, mais pourquoi j'écoute ça à 21 ans, à 25 ans, à 28 ans, je me disais, mais les informations, elles étaient là tout le long, et qu'est-ce qui se serait passé dans ma vie si je l'avais su à 18? Bon, après, j'en sais rien, mais c'est quelque chose, en tout cas, qui, moi, traverse beaucoup ma réflexion de, est-ce qu'on peut, voilà, laisser quelque chose, parce que les mouvements sont forts, et en particulier sur certains domaines, moi, je m'intéresse beaucoup donc aux industries culturelles. Pourquoi est-ce que les industries culturelles afro-américaines sont si puissantes? Mais parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est appuyé sur le travail qui a été mené antérieurement. Donc je vous donne un exemple très simple. Melvin Van Peebles, c'est celui dont on considère qu'il est le père de la Blaxploitation, parce que c'est le premier homme noir aux États-Unis à avoir fait un film entièrement indépendant, qui s'appelle Sweet Sweetback Badass Song, qui est un film de 72, et qu'il a financé avec ses propres fonds, et en allant taper des stars américaines de l'époque afro-américaine, donc voilà, je sais pas, Bill Cosby, enfin tous les noirs qui avaient de l'argent là dans les années 70, puisque lui avant avait été réalisateur à Hollywood. Et c'est celui qui a fait le film Watermelon Man, qui est un principe qui a été repris depuis énormément de fois, c'est le mec blanc raciste qui se réveille un matin et il est noir. Bon, donc ça a été refait énormément de fois, mais c'est lui qui a fait l'original. Et il en avait marre de travailler à Hollywood et de devoir aborder les questions raciales d'un point de vue humoristique, ou alors après devoir partager, en tout cas de participer à des films où en général il fallait que les noirs meurent à la fin. Ou alors après, bon, il y a le film d'horreur, il meurt au début. Mais la question, c'était qu'il y avait assez peu de chances pour qu'un héros noir, on va dire, triomphe de l'adversité. Et donc, son idée dans Sweet Sweet Back Ballast Song, c'est de faire un héros noir qui est un peu hors la loi, qui est un peu comme ça, et qui à la fin échappe à la police. Et alors ça, c'était vraiment un truc super méga subversif à l'époque. Et bon, ça l'est peut-être toujours aussi d'ailleurs aujourd'hui. Et donc, du coup, voilà, il décide de mener ce projet, etc. C'est particulièrement épique. Il finit par finir le film, et là il se dit, bon, le meilleur moyen de le lancer, c'est d'aller directement le montrer à la communauté noire. C'est quoi une des villes où il y a le plus de noirs et où en plus il y a les Black Panthers? C'est Détroit. Je vais aller montrer le film à Détroit, et si j'arrive à créer de l'intérêt pour le film à Détroit, après il pourra être vu partout dans les États-Unis. Donc il trouve deux frères juifs qui ont un cinéma, qui veulent bien prendre son film, etc. Et les gars lui disent, bon, par contre, nous on te laisse un week-end, mais si on a un week-end tu remplis pas, après il faudra partir. Donc là, lui, il commence à aller dans les rues, etc., et à essayer de trouver des Black Panthers pour qu'ils viennent voir le film, parce qu'il sait que les Black Panthers ont un gros système de, on va dire, mobilisation de la communauté, et donc si le film va plaire à des Black Panthers qui ont vu le film, ils vont remplir la salle. Donc, il y a une première projection l'après-midi, c'est un peu un bide, il y a style 20 personnes, etc., mais en fait, il y a des Black Panthers dans la salle, et à partir du soir, jusqu'à, après tout, des mois entiers, les salles ne désemplissent pas, le film fait un carton aux États-Unis, Madeline Van Peebles devient multimillionnaire, du coup, là, les Blancs se disent, mon Dieu, il faut qu'on fasse des films avec des Noirs, etc., c'est le début de la Blaxploitation. Je vous ai fait la version courte. Vous pouvez lire la version longue dans le livre qui est tiré de l'expérience de Madeline Van Peebles, qui est donc le titre de son film, Sweet Sweet Back Badass Song, A Guerrilla Filmmaking Manifesto. Donc quand vous entendez ensuite des jeunes réalisateurs et réalisatrices se revendiquer du guérilla filmmaking, c'est cet héritage-là. De puisque on ne peut pas me laisser faire les films que je veux faire, puisque je ne peux pas avoir les financements, je vais trouver un moyen de me financer avec la communauté, ou en tout cas de façon alternative. Je vais amener directement mon film au cinéma et je vais aller chercher mon public cible en partant du principe qu'à partir du moment où le film aura un certain succès commercial, tout le monde sera obligé de venir, y compris donc le groupe majoritaire et les Blancs, parce qu'à la fin ils veulent faire de l'argent comme tout le monde. Donc du coup, finalement, la politique sera effacée par l'économie. Ça, c'est un exemple américain. En France, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a quand même, ça qui a joué et qui a fait que justement un film aussi comme Ouvrir la voie peut voir le jour et peut aussi, en tout cas, se faire une place dans les salles de cinéma. Parce qu'à un moment donné, bah, c'est le public qui a le dernier mot. La seule chose qu'il faut arriver à faire, bah, c'est avoir une œuvre finie, arriver à l'emmener dans l'endroit. Et c'est pour ça que je vous ai parlé des moyens de production. Et ça demande aussi un certain type de connaissance. Pourquoi la positionnalité? C'est parce que ça permet aussi de lutter contre le discours du « quand on veut, on peut ». Je ne veux pas que mon expérience devienne un outil pour après culpabiliser des jeunes noirs qui n'arrivent pas à amener leurs films au cinéma. Pourquoi est-ce que moi j'ai pu amener mon film au cinéma? Ben moi je suis diplômée de Sciences Po Lyon en communication. Donc tout ce que je vous ai expliqué sur je fais ma page Facebook, mon compte Twitter, mon machin, j'ai découvert ensuite récemment là qu'au Québec ils appellent ça une campagne d'impact. Donc en fait c'est comment tu vas créer une communauté autour de ton film, etc. Bon, moi ça me venait de ma connaissance de Melvin Van Peebles, mais ça aussi, pourquoi est-ce que je connais Melvin Van Peebles? Mais parce que je m'intéresse à ces questions, que mon mémoire de fin d'études à Sciences Po c'est sur les enjeux du traitement de la question coloniale dans la société contemporaine française, et que j'ai fait mon sujet avec une étude de cas sur l'évolution de la représentation des Noirs dans le cinéma et la publicité en France depuis l'époque coloniale. Donc ça fait 10 ans que je travaille sur ces questions, et finalement Ouvrir la voie c'est une synthèse de mon travail, on va dire, universitaire, de mes engagements militants, et qui fait que quand moi j'étais à Sciences Po, en deuxième année, j'ai fait un stage à Ardèche Images, parce qu'en fait je suis rentrée à Sciences Po pour être journaliste. Très vite je me suis rendu compte que ça me plaisait pas et que je préférerais peut-être plutôt faire du documentaire. Donc j'ai su qu'il y avait Ardèche Images, qui est un gros lieu du documentaire en France, où ils ont un master de réalisation, un gros festival l'été qui s'appelle les états généraux du film documentaire, une énorme vidéothèque documentaire, etc. Et donc j'ai été faire un stage aux Rencontres de Saint-Laurent, qui sont les rencontres qui permettent à des réalisateurs qui en sont à leur premier ou deuxième film d'aller avec leurs producteurs et rencontrer des diffuseurs, des distributeurs, etc. Pourquoi je vous dis ça? Mais parce qu'en fait, si moi je connais un peu le monde du cinéma et comment ça fonctionne, c'est parce que j'ai fait ce stage, c'est parce qu'en dernière année à Sciences Po, je suis allée faire un an en Australie et que j'ai fait un semestre d'études de cinéma, dont un cours de production cinématographique, parce qu'en fait, bon, je voulais déjà un peu faire la réa, après on était par groupe de 4, tout le monde veut faire réalisateur, donc à la fin j'ai fait productrice, mais finalement, ben, j'ai appris à organiser un tournage, donc du coup, ben, c'est aussi pour ça que j'ai pu faire mon planning et mon truc et que je savais comment m'organiser pour ouvrir la voie. Et puis du coup, après, j'ai fait le conservatoire d'art dramatique à Paris en 16e, où j'ai été comédienne, j'ai travaillé, donc j'ai été sur les plateaux, j'ai vu comment les choses fonctionnaient. Si j'explique pas tout ça, et que je dis juste, bah oui, quand on veut, on fait un financement participatif, on prend sa caméra, on y va, c'est parti, c'est pas tout à fait vrai. Et donc du coup, ça pourrait aussi mettre pression à des personnes bah, qui ont soit pas fait ces études, soit pas ce parcours-là aussi, qui ne parlent pas forcément anglais, etc. J'en reviens aux États-Unis. Vous avez donc des gens comme Edwin Van Peebles, ok, on est dans les années 70, là. Donc lui, il fait ça. Ça donne des idées à plein d'autres jeunes réalisateurs noirs et tout qui se disent bah si lui il l'a fait bah moi aussi je peux le faire. Donc là arrive une autre génération. Vous avez Judi Dench, Spike Lee, etc., etc., qui est le début du cinéma indépendant afro-américain avec des choses qui ont des succès critiques et ou commerciaux, etc. Cette génération-là, elle prépare la génération qui est en train d'exploser aujourd'hui, c'est-à-dire une espèce de myriade de femmes noires, de alors moi encore une fois c'est noir qui m'intéresse, mais ça marche pour plein d'autres communautés, mais les noirs. Vous avez Ava DuVernay, Dee Reese, etc. Et puis la dernière génération qui est Dee Reese, c'est les femmes noires queer. Donc c'est ça aussi qui se passe. Et Dee Reese, elle a fait NYU en cinéma et c'était la protégée de Spike Lee. Donc vous pouvez par exemple aujourd'hui émettre toute une filiation aux États-Unis sur qui sont toutes ces personnes dont on voit qu'elles ont une liberté esthétique, une liberté de création, qu'elles peuvent travailler en toute indépendance. Par exemple Ava DuVernay, mais aussi Ava DuVernay sur qui elle s'appuie. Ben, elle s'appelle sur Oprah. Oprah, elle a fait quoi? Elle a fait un énorme, on va dire, empire supra-méga-capitaliste, mais c'est parce que des femmes comme Oprah se sont fait une place dans le monde du cinéma avec pouvoir et argent, que derrière, il peut y arriver des gens comme Ava DuVernay et Dee Reese, qui sont juste des artistes complètement indépendantes, qui font ce qu'elles veulent, mais parce que derrière, il y a des femmes noires qui peuvent tenir le choc et les laisser créer ce qu'elles ont envie. Puis quand ça cartonne, ben, Disney se ramène et puis donne l'argent à Ava DuVernay pour faire Wrinkle in Time, mais il a fallu derrière qu'il y ait des gens pour, on va dire, nourrir ce talent-là et puis la laisser s'exprimer avec des séries comme Queen Sugar, etc. Donc la question, c'est que quand vous êtes capable de faire tout ce suivi chronologique aux États-Unis, ben, en France, je vous ai parlé de Zan Patti, en 88, et puis on arrive à la dernière fois que des femmes noires ont gagné quelque chose au César, c'était l'année dernière, et c'était un co-César pour Maïmouna Doupouré et pour Alice Diop. Alors ils donnent quasiment jamais des co-Césars, vous pouvez pas leur donner un César entier avec des fois d'intervalle, hein, ils ont donné, bon. Mais c'était donc en 2017, et donc qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années-là? Parce qu'il y en a eu des femmes noires réalisatrices. Il y a les sœurs Canor, il y en a plein, il y a bon, Isabelle Veuny-Claverie, etc. Mais il y en a eu tout un certain nombre, mais qui ont eu des films qui ne sont pas sortis en sortie nationale, qui travaillent majoritairement à la télé. Je suis incapable de vous donner le nom d'un distributeur de cinéma en France qui soit noir, et je ne pense pas qu'il y en ait. Il y a des producteurs cinéma noirs en France, mais il y en a très peu. Et d'ailleurs, il y en a une qui vient d'arriver il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Laurence Lascari. Je crois que Laurence et moi, on a peut-être 2 ou 3 ans d'écart. Et donc, il y a cette question-là aussi. Sur qui est-ce que nous, on s'appuie? À qui est-ce que nous on va demander des conseils? À qui est-ce que nous on va demander de l'argent? Aux États-Unis, vous avez un système qui fait que quand Madeleine Van Peebles, dans les années 70, veut faire son film, il va avoir les acteurs noirs qui gagnent bien leur vie, les sportifs noirs qui gagnent bien leur vie, les musiciens noirs qui gagnent bien leur vie. Encore une fois, en France, bah, nous on va voir qui? Et on pourrait, bon, après j'aurais pu essayer d'aller voir des foot, mais moi je les connais pas. Comment je vais avoir accès? Parce que moi j'ai pas travaillé à Hollywood. Si Madeleine Van Peebles, il a ce truc d'avoir ce super carnet d'adresses. Mais c'est parce que le mec, il a fait 10-15 ans de réalisateur à Hollywood. Ben, moi, j'ai pas ça dans mon petit panier. J'ai fait mon film, j'ai fait mon truc sur les réseaux sociaux, etc. Et après, quand je dois demander de l'argent, je fais un financement participatif, c'est cool. Mais en fait, j'ai pas accès au vrai argent. Et le vrai argent, pourquoi je parle des moyens de production, c'est aussi ce qui va permettre, encore une fois, ben, d'avoir des archives et puis de les conserver. Parce que la question, c'est ça aussi. Qui garde quoi? Où est-ce qu'on retrouve les choses? Quand je vous dis que j'ai réussi à gratter 2 photos à Gerty, c'est de ça dont il s'agit. Je lui dis, est-ce que t'es sûr que t'as rien? Est-ce que tu peux regarder si t'as pas, je sais pas, des photos, des trucs, etc. Donc ça, par exemple, si on voulait faire un film d'archives aujourd'hui sur les mouvements militants noirs, etc., mais l'argent que ça coûterait déjà en archiviste pour aller exhumer ces photos-là. pour aller exhumer ces vidéos, qui est-ce qu'on pourrait mandater pour déjà faire une liste des gens auprès desquels on pourrait aller demander les photos, les vidéos, etc. Donc voilà, c'est aussi pour garder en tête que tout ceci se fait et a un coût, et que nous, on est peut-être juste au tout début d'une forme de sortie de précarité pour les groupes, on va dire, minorisés racialement en France, qui fait que on n'est pas encore au stade où on a vraiment l'argent, mais au moins on est au stade où on n'est pas en train de crever la bouche ouverte et où on se dit justement, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'archives, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on pourrait s'organiser, etc. Et donc typiquement, dans le monde de la production audiovisuelle, qui est celui qui m'intéresse, ben c'est clair qu'on ne peut pas se comparer ou s'agacer de se dire, ah mais nous on n'est pas du tout là où en sont les États-Unis. Ben non, en fait, nous on en est là où en sont les États-Unis dans les années 70. Et encore, parce qu'on a encore une fois, les Noirs qui sont réalisateurs et réalisatrices en France n'ont pas du tout le pouvoir de réseau et financier que pouvait avoir un Melvin Van Peebles. Donc voilà, c'est aussi pour remettre les choses un peu en contexte. Et donc, la création, au sens total artistique, comme invention de soi et d'un nouveau langage, et donc on retourne à la glissant et à la créolisation, mais bon, j'ai choisi, je peux pas parler de tout, même si je suis déjà en train de bien dériver sur le temps qui m'était imparti. Donc, un nouveau langage peut s'imposer dans nos vies, et là j'ai encore vous donner un exemple de pourquoi ça s'est imposé à moi, en tout cas, pourquoi j'ai trouvé que cette citation s'applique très bien aux personnes adoptées, et pourquoi un certain nombre d'entre nous sont justement des artistes, etc. C'est Sandrine De Quince qui dit ça dans la préface d'un livre qui s'appelle « Art et abandon des adoptés se racontent ». Alors la citation dit ceci. « Là où le psychologue peut évoquer les effets délétères de la perte de la figure d'attachement, la personne adoptée peut, à un certain moment de sa vie, ressentir l'absence de lien comme une liberté féconde, une ressource, une opportunité de rencontre et de tissage de nouveaux liens. Nous avons déjà évoqué la singularité de ces identités, proposant de voir l'adopter comme un passeur, une personne porte, se situant simultanément à l'intérieur et à l'extérieur, appartenant à la fois à l'un et à l'autre, ce qui fait de lui un informateur et un témoin privilégié. » Et dans cette citation, on entend plein de choses qui font référence encore... je vais pas dire ça parce qu'après je vais me perdre. Une autre autrice que j'aime beaucoup, ou auteure, dans la question de comment est-ce qu'on peut s'octroyer la liberté dans la création, et surtout, comment est-ce qu'on peut, faire des rectifications historiques. Et je trouve que cet exemple est très très bon, et c'est donc l'exemple de Marie Scondé. En fait, Marie Scondé, elle remarque, à juste titre, que dans la pièce d'Arthur Miller, Les Sorcières de Salem, il y a certains personnages noirs, Tituba, mais Tituba est uniquement présentée comme étant une servante, etc., n'ayant pas vraiment, on va dire, de relief, qui est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la représentation des noirs audiovisuels, hein, c'est-à-dire des personnages comme ça, un peu monolithes, qui vont être soit gentils et rigolos, soit en détresse, mais par exemple des personnages complexes. Moi je dis, voilà, un de mes grands fantasmes, c'est de donner un rôle de méchante retorse à Firmin Richard. Ça, j'adorerais faire ça, parce que c'est une très bonne comédienne, moi je l'ai vue au théâtre, elle est vraiment incroyable. Et puis c'est quelqu'un à qui on donne des rôles extrêmement pauvres en termes d'écriture, alors que voilà, il n'y a pas de raison, les personnages noirs devraient aussi être complexes. Et donc, voici ce que dit Marie Scondé dans Tituba la sorcière, où elle fait parler Tituba, qui montre bien comment même dans une œuvre de fiction, on peut redonner une vraie place historique à certains personnages. Les arbres dénudés semblaient des croix de bois et mon calvaire n'en finissait pas. Au fur et à mesure que j'avançais, un sentiment violent, douloureux, insupportable déchirait ma poitrine. Il me semblait que je disparaissais complètement. Je sentais que dans ces procès de sorcières de Salem qui feraient couler tant d'encre, qui exciteraient la curiosité et la pitié des générations futures et apparaîtraient à tous comme le témoignage le plus authentique d'une époque crédule et barbare, mon nom ne figurerait que comme celui d'une comparse sans intérêt. On mentionnerait ça et là une esclave originaire des Antilles et pratiquant vraisemblablement le houdou. On ne se soucierait ni de mon âge ni de ma personnalité. On m'ignorerait. Dès la fin du siècle, des pétitions circuleraient, des jugements seraient rendus qui réhabiliteraient les victimes et restitueraient à leurs descendants leurs biens et leur honneur. Moi, je ne serais jamais de celle-là. Condamnée à jamais, Tituba. Aucune biographie attentionnée et inspirée recréant ma vie et ses tourments. Et cette future injustice me révoltait, plus cruelle que la mort. Voilà. Donc, Marie Scondé, une auteure à lire si vous ne la connaissez pas, et dont l'objectif dans ce livre, qui est intégralement dédié à Tituba, est exactement de ne pas la faire disparaître de l'histoire, et même s'il s'agit de lui recréer une biographie. Comme je vous disais tout à l'heure, que ce qui est intéressant pour moi dans la création, c'est aussi la possibilité d'échapper à la conversation qui nous est imposée par le statut minoritaire. Donc je faisais référence à Dubois. Dubois, c'est la personne qui a théorisé la question de la double conscience. La double conscience, c'est donc quand on est en posture minoritaire, donc Dubois, sociologue afro-américain, et qui a d'ailleurs mené des enquêtes de terrain bien avant l'école de Chicago. Il y a un livre justement sur l'histoire de Dubois comme on va dire fondateur de la sociologie moderne américaine et pas l'école de Chicago. J'ai oublié son titre, mais je vous recommande vivement de le chercher. Voilà, c'est pas pour dire les morts ont tout inventé, mais enfin bon, quand même, on est à la base d'un certain nombre de trucs dont on a été effacé, et la sociologie, en tout cas nord-américaine, en fait partie. Donc, la double conscience, c'est cette question de savoir qu'on est en posture minoritaire dans une société donnée, et donc de connaître non seulement notre assignation, mais les stéréotypes qui y sont attachés. Par exemple, les noirs sont en retard, les noirs sentent mauvais, les noirs rient trop fort, etc., etc. Ce qui fait qu'à partir du moment où on est conscient de ces assignations, nous n'avons pas beaucoup d'autres choix que A, s'y conformer, B, les refuser. Dans les deux cas, une conversation constante nous est imposée avec le groupe majoritaire dominant, cette conversation constante, c'est non seulement une forme d'oppression, mais c'est aussi une forme d'aliénation, parce que ça veut dire, d'une certaine façon, que les blancs sont dans notre tête en permanence. Ce que j'explique pour des personnes qui ont du mal, par exemple, à visualiser sur la question raciale, c'est de le transposer à la question de genre. À la question de genre et à la question de est-ce que je mets une mini-jupe. Une fille est chez elle, c'est le matin, elle a envie de mettre une mini-jupe. Et là, elle se dit, ouais, mais alors, j'ai envie de mettre une mini-jupe, mais je vais me faire siffler. Ouais, mais alors, pourquoi je ne mettrais pas une mini-jupe, c'est envie de me mettre une mini-jupe, après tout, machin. Et là, commence une conversation, il n'y a pas de mec dans son placard. Mais elle sait qu'elle est dans une société patriarcale et que quand elle va sortir, il va se passer quelque chose en rapport avec sa mini-jupe. Cette conversation-là, si on peut la faire cesser à certains moments, quand on est seul, ou surtout, comment est-ce qu'on peut la faire cesser? Pour moi, on peut la faire cesser dans la création. C'est-à-dire que j'ai le choix, quand je suis toute seule chez moi, de ne pas me dire « je fais un film pour les blancs, contre les blancs, blablabla et tout », mais de me dire « je fais un film pour moi » ou « je fais un film pour les filles noires ». Après, « Ouvrir la voie » est un film sur les femmes noires en contexte minoritaire. Bien entendu que d'une certaine façon, il va parler au groupe majoritaire. Parce que ce que je dis aussi souvent, et c'est pour ça que dans le film, vous avez des personnages qui sont des femmes noires qui ont grandi en contexte majoritairement noir, pour comprendre qu'elles, elles n'ont pas été construites comme noires. Elles ont d'abord été construites comme femmes. Parce qu'une femme noire en Haïti, c'est une femme, c'est pas une femme noire, tout le monde est noir en Haïti. C'est pareil au Sénégal, ou n'importe où ailleurs, où les noirs sont un groupe majoritaire. Cette femme, elle devient noire, avec des assignations et des stéréotypes qui sont attachés, quand elle arrive en France. Avant ça, elle est une femme, éventuellement, je sais pas, moi, elle va être d'une ethnie particulière si elle est malienne ou sénégalaise, ou d'une classe sociale donnée si elle est en Haïti, etc. Mais en fait, elle n'est pas noire, en tout cas, c'est pas son identité principale, ou c'est pas la chose par laquelle elle va être décrite. On est en Haïti, on parle de deux personnes, on va dire, je sais pas, Marlene, mais tu sais, c'est la fille qui a les cheveux vachement crépus, ou je sais pas quoi, mais on va pas dire sa fille noire. Quoique, des fois, on peut dire ça dans la Caraïbe, c'était un mauvais exemple, j'aurais dû le dire pour le Sénégal. C'est vrai, dans la Caraïbe, il y a la question du colorisme, où on va dire elle est noire, foncée et tout, donc ça, c'est encore un autre truc. Mais, c'est pas son identité principale, ça va être une façon, on va dire, de la décrire. Et donc, ce qui m'intéresse, pour moi, c'est vraiment ce moment où on peut se sortir de l'injonction de la double conscience, et donc, effectivement, commencer par décoloniser soi-même son imaginaire, et encore une fois, arriver à faire sortir les blancs de sa tête. Même si, de toute façon, encore une fois, quand on parle en contexte minoritaire, ils sont là quelque part. Et le film va aussi s'adresser à elle et eux, mais pour moi, plus d'un point de vue où, on va dire, l'expérience noire est universelle. Puisqu'une des choses qu'on va souvent vous opposer quand vous écrivez un scénario avec des personnages noirs en France, c'est « Ah oui, mais c'est un film de noir, c'est un film de niche, est-ce que tout le monde va s'identifier ?» Moi, j'ai passé ma vie à m'identifier à des personnages blancs quand je regarde des films, donc si moi, je suis capable de voir l'humanité d'une personne blanche et pas me dire « Oh non, c'est un film sur une famille blanche », mais de me dire « Bon, c'est un film, où éventuellement, je vais en voir 12 d'affilée les mêmes, et je vais me dire « Toujours que des blancs quand ils représentent une famille, etc. » Mais moi, je me dis « Bon, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de famille, c'est un film de gangster, je me dis pas « C'est un film de blanc ». Donc la question, c'est est-ce que c'est possible pour le groupe majoritaire de retrouver son humanité dans la mienne? C'est ça qui m'intéresse quand je fais un film comme Ouvrir la voie. C'est pas de me dire c'est pour contre les blancs et tout, c'est que je me dis, moi en fait, je pars du principe que quand je monte des femmes noires à l'écran pendant 2 heures, tout le monde, que ce soit des femmes noires ou pas, devrait s'y retrouver. Et les personnes qui n'y voient qu'un film de noir ou qu'un film sur les noirs, etc., ben c'est ces personnes-là qui ont un problème. Mais du coup, c'est aussi pour ça que je ne vais pas m'intéresser à ces personnes-là dans mon processus créatif, parce que ça appauvrirait ma création. C'est pas de ça dont moi j'ai envie de parler. Donc, je vous donne une autre citation que j'ai pas en français, qui est de d'Audre Lorde, et qui est justement sur cette question de la perte de temps qui consiste à constamment devoir parler et expliquer les choses au groupe majoritaire, quel qu'il soit, dans un contexte donné. Et puis, une dernière, alors je suis vraiment désolée pour toutes ces citations en anglais, mais qui est quand même un grand classique, et je pense que peut-être qu'on peut même trouver des traductions de Toni Morrison sur la question de la fonction du racisme. Et de la fonction du racisme comme, on va dire, façon de nous dérailler de notre travail créatif. Et je rajoute créatif, qui n'est pas ce qu'elle dit dans la citation, mais parce que souvent cette citation a été prise à tort comme une apologie du capitalisme. Quand Toni Morrison dit que la fonction du racisme, c'est de nous empêcher de faire notre travail, elle ne parle pas du salariat, elle parle du travail. Donc le travail, c'est encore une fois, c'est la création, c'est tout ce qui nous permet d'être des êtres humains qui se nourrissent, etc. Et donc pour moi, et ça peut être le travail militant, ça peut être le travail pédagogique avec ses enfants, ou même quand on est un site, etc. Pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu, c'est de comprendre que tout ce temps passé, et alors je vous le dis autant que je me le dis à moi, c'est-à-dire que pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai quand même participé à la rédaction d'une tribune en réponse à la tribune de Catherine Deneuve, nanana, tout ça, parce que ça arrive par moments que quand même il faille répondre, en tout cas de mon point de vue. Après, je connais et j'admire, j'ai des amis racisés qui ne répondent pas plus, ont décidé que c'était pas leur travail. Il y a un livre qui est sorti là récemment de Rainier Deloge qui dit « Pourquoi je ne parle plus de race avec les Blancs ?» Donc il y a des personnes qui ne le font plus du tout. Moi, j'essaye de le faire de moins en moins et en tout cas de surtout faire en sorte que ça ne déraille pas mon travail. C'est-à-dire que si je suis en train de faire quelque chose, si j'ai des deadlines, je me mets pas sur les rédactions de tribune et puis je peux pas commenter tout et n'importe quoi. J'ai une amie qui s'appelle Kubra Gumsai, elle disait au bout d'un moment j'ai arrêté d'aller dans les médias parce que j'avais l'impression d'être devenue une femme de ménage intellectuelle, qu'à chaque fois que quelqu'un déblatérait un truc dégueulasse, on m'invitait pour venir passer la serpillière. Et je trouvais que c'était une très belle image. Et du coup, j'essaie de penser à ça aussi. On n'est pas obligé constamment, et aussi parce qu'encore une fois, moi je trouve que ça appauvrit notre réflexion. Autant par exemple dans la pédagogie, être capable de réexpliquer quelque chose à quelqu'un, ça demande de l'avoir vraiment bien assimilé, de faire preuve de synthèse, etc. Donc au moins il y a quelque chose de créatif et on apprend quelque chose. Passer en permanence son temps à dire « mais non, on est des êtres humains, mais non, on sent pas mauvais, mais non, c'est pas normal d'importuner les femmes dans le métro, etc. etc. » Ben franchement, en fait, moi j'en suis pas là de ma réflexion, et à un moment donné, j'en ai un peu marre de devoir constamment faire du nivellement par le bas, parce que des personnes ont dit « ah, la Terre est plate !» Et alors là, ça y est, c'est reparti, il faut dire « non, la Terre est pas plate !» Bon voilà, donc je veux dire, à un moment donné, il y a vraiment cette question-là aussi de ce que ça nous fait à nous. Et si moi je rentre dans cette discussion-là, ça veut dire que quelque part, j'accorde un minimum de légitimité à ce qui a été dit. Et en fait, moi j'ai pas à répondre à ce que les Noirs puent, je sais pas quoi, sont en retard et tout, parce que c'est quelque chose qui attaque mon humanité, et moi j'ai pas à négocier mon humanité avec des gens. Si ces gens-là ne voient pas mon humanité, encore une fois, ça doit être leur problème. Et donc ça, ça a été très bien dit par Madame Toni Morrison, dont je vous mets la citation. Et puis, pour quand même se quitter sur une petite note positive, je vous parlerai du fait que c'est quelque chose qui se développe beaucoup en ce moment. Justement, alors ça c'est une théorie, on verra dans quelques temps si c'est vrai. C'est justement, pour moi, c'est vraiment cette question d'Internet comme outil pour baisser les barrières à l'entrée dans le débat public, qui fait que là, il y a une espèce d'explosion de prise de parole de groupes minoritaires, que ce soit les personnes racisées, les personnes en situation de handicap, les personnes LGBTQIA+++, etc., etc. Et donc, je vous donnerai quelques exemples dans lesquels on peut voir vraiment une réappropriation de la narration par des personnes afro-féministes ou afro-descendantes qui montre qu'il y a une vraie volonté d'investir, on va dire, tout un pan des industries culturelles, et puis de justement venir combler les manques. Un des premiers endroits là où il y a beaucoup de production en ce moment, c'est les livres pour enfants, et donc c'est super, puisque effectivement, quand on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de livres pour enfants qui représentaient des enfants noirs correctement, et puis qui parlaient des enjeux qui nous touchent, nos cheveux, etc., etc., un certain nombre de jeunes femmes noires se sont mises à en écrire. Donc Mrs. Roots, qui est dans le film, elle a écrit récemment là, Comme un million de papillons noirs, mais il y a eu aussi le livre Neiba, je sais tout, et puis il y en a beaucoup. Il y a Dia Clumsy Mummy, qui avait au départ un blog pour les mamans noires, et puis c'est aussi devenu un autre, elle a développé tout un autre versant qui s'appelle Diversité Kid Lit. Donc là c'est tout ce qui est sur la diversité dans la littérature jeunesse, et de justement arriver aussi à répertorier tout ce qu'il y a comme tout ce qui existe comme livre pour enfants racisés, etc., puis essayer d'organiser des forums, des salons littéraires, et puis inviter de plus en plus d'entre nous à écrire des livres, solliciter les maisons d'édition ou s'auto-éditer si on n'arrive pas à trouver des endroits. Et encore une fois, ça, avec l'impression numérique, c'était pas possible. Donc il y a vraiment cette question de qu'est-ce qui nous a permis d'entrer dans le débat public. C'est pareil pour les films. Alors on voit beaucoup plus, en particulier pour les femmes, de réalisatrices de courts-métrages et moyens-métrages, mais il faut espérer que ça se développe dans les années à venir sur des plus longues formes, et surtout pour les longues formes en fiction, puisque là où on brille par notre absence, c'est dans le long-métrage de fiction. Mais bon, voilà, on va y arriver gentiment mais sûrement. Donc je cite quelques films, donc justement Maman de Maïmouna Doucouré, là qui a co-reçu le César du court-métrage l'an dernier, avec Vers la tendresse d'Alice Diop. Il y a cette année est pré-sélectionné pour les Césars Le Bleu, Blanc, Rouge de Mes Cheveux de Josa Nzambe. Il y a le film Marianne Noire, il y a le film La France Cachée, etc. Donc il y a toute cette narration aussi qui se développe parce qu'on a accès à YouTube, parce qu'on a accès aux caméras numériques, et parce que parfois aussi par des biais détournés, le film de Maïmouna Doucouré a pu être financé parce que le Jamel Comedy Club a aussi un programme de financement de courts-métrages et d'aide à l'écriture, etc., qui fait qu'un certain nombre de jeunes racisés là ont pu finalement avoir des aides du CNC parce qu'ils sont passés par le Jamel Comedy Club. Donc ça aussi c'est pour vous montrer comment il faut qu'il y ait un minimum de structure pour que des nouveaux talents puissent émerger et aussi être soutenus dans leur création. Et Maïmouna, comme Maman, a eu aussi une distinction à Sundance. Maintenant, elle fait partie du programme de Sundance pour son prochain film, qui est un long métrage de fiction. Donc, si ça se trouve, il y aura bientôt un long métrage de fiction réalisé par une femme noire. Attention, croisons les doigts. D'ici 2-3 ans. Moi, je suis sur le coup, mais ça me prend un peu de temps. Là, mon prochain, c'est un documentaire. Donc, ce sera dans 5 ans. Chance, je pourrais faire un long métrage de fiction. Mais voilà, il faut être patiente, ça va venir. Il y a les blogs et les chaînes YouTube, et là c'est pareil, on voit vraiment une diversification des thématiques. Alors que ce soit des choses plutôt du côté beauté, etc., mais on a aussi de plus en plus de blogs sur la parentalité, y compris le compte Instagram de Les Vrais Bonhommes Tresses, qui est de loin un de mes préférés. Donc c'est un compte sur les papas noirs qui font les cheveux de leurs filles. Donc du coup, ça aussi, c'est quand même une vraie avancée dans le sens de qui que vous soyez, vous allez pouvoir maintenant trouver des infos, trouver des personnes à qui demander des questions, trouver des aînés. Si c'est pas dans votre famille, c'est sur les blogs, que ce soit sur les violences obstétriques, mais encore une fois, toujours orienté sur le fait d'être une femme noire, qu'est-ce qui risque de vous arriver quand vous allez vouloir accoucher, etc. Là, j'ai vu aujourd'hui qu'il y a une nana qui a un truc qui s'appelle Ovocyte-moi, donc là, c'est sur l'infertilité chez les femmes noires qui cherchent des dons d'ovocytes. Donc bon, je veux dire, il y a de plus en plus de choses qui font qu'on peut aussi de plus en plus s'éduquer, encore une fois, tôt, se sentir légitime, quelle que soit la thématique qui nous concerne, etc. Et puis je termine donc avec cette initiative que j'ai trouvée très très intéressante de Kamissa Makwata et Marie-André Poulain. L'idée, donc c'est des artistes d'art contemporain, l'idée c'était de reprendre un bout d'histoire du Québec, puisque le Québec est, on va dire, à la réputation d'être un espace très féministe, ce qui est vrai. Par contre, au niveau de la diversité de ce féminisme, c'est un peu moins vrai, et surtout de la rencontre des différents féminismes. C'est-à-dire que les populations haïtiennes sont présentes à Montréal depuis très longtemps, et les organisations de femmes noires haïtiennes, de femmes noires dans le Canada anglophone, il y a même eu le Black Women Congress of Canada pendant plusieurs années, etc., sont là, mais c'est pas une histoire qui s'est très bien croisée avec celle des féminismes blancs au Québec, ou en tout cas qui a été, garder en mémoire comme telle. Et donc, du coup, Camisa a décidé de faire une installation, enfin, en tout cas, une installation qui serait ensuite photographiée, où l'objectif était donc de réécrire l'histoire de l'art contemporain féministe au Québec. Et donc, vous avez la photo originale de 1979 ici. Et puis, nous avons donc, en 2017, elle a fait une installation à laquelle un certain nombre de femmes racisées ont pris part, histoire de refaire. Donc, c'est le même espace, hein. La photo a été reprise à la centrale. Et donc, j'aime aussi cette idée-là. Et puis, la photo est ensuite réexposée, accompagnée des noms des participantes. Et ce que je trouve très intéressant, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de documenter notre passage et d'intervenir, que ce soit par la fiction, par la photo, par le documentaire, etc., sur les archives. Et je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous avez des questions.